cette semaine avec le père Charles Formery.
Chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de la conversion de Alphonse Ratisbonne, qui est lieu en 1842 par l'entremise de la médaille miraculeuse qui, par le biais de Sainte Catherine Labouré, était arrivée sur la terre. Je m'inspire d'un article de Aletheia. Rien ne prédisposait Alphonse Ratisbonne, qui a vécu de 1814 à 1884, neuvième et dernier enfant d'une famille de banquiers juifs de Strasbourg, à se tourner un jour vers le Christ. Bien au contraire, il n'y avait pas plus révolté que lui contre toute forme de religion et contre le catholicisme en particulier. Lorsque son frère aîné, Théodore, prend la décision de se convertir au catholicisme et d'entrer dans les ordres, le jeune Alphonse n'a que 11 ans. Le fait que son frère exerce son ministère dans la même ville, sous les yeux de son inconsolable famille, fait grandir en Alphonse une haine de tout ce qu'il représente. « Tout jeune que j'étais, écrira-t-il, cette conduite de mon frère me révolta, et je pris en haine son habit et son caractère. Élevé au milieu de jeunes chrétiens, indifférents comme moi, je n'avais éprouvé jusqu'alors ni sympathie ni antipathie pour le christianisme. » Mais la conversion de mon frère, que je regardais comme une inexplicable folie, me fit croire au fanatisme des catholiques, et j'en eus horreur. Son habit me repoussait, sa présence m'offusquait. Un jour, un enfant était à l'agonie. Mon frère Théodore ne craignit point de demander ouvertement à ses parents la permission de le baptiser. Et peut-être allait-il le faire, quand j'eus connaissance de sa démarche. Je regardais ce procédé comme une indigne lâcheté. Je lui écrivis de s'adresser à des hommes et non à des enfants. Et j'accompagnais ses paroles de tant d'invectives et de menaces qu'aujourd'hui encore je m'étonne que mon frère ne m'ait pas répondu un seul mot. Il continua ses relations avec le reste de la famille. Quant à moi, je ne voulus plus le voir. Je nourrissais une haine amère contre les prêtres, les églises, les couvents et surtout contre les jésuites, dont le nom seul provoquait ma fureur. Après des études de droit à Paris, Alphonse entre dans la banque familiale à Strasbourg auprès de son oncle, homme fortuné et extrêmement généreux, qui accède à tous les caprices de son neveu. Alphonse écrira « Je n'aimais que les plaisirs, les affaires m'impatientaient, l'air des bureaux m'étouffait, je pensais qu'on était au monde pour en jouir, et bien qu'une certaine pudeur naturelle m'éloigna des plaisirs et des sociétés ignobles, je ne rêvais cependant que fêtes et jouissances. » Et je m'y livrais avec passion. Mais il ne se sent pas heureux au milieu d'une telle abondance, quelque chose lui manque, il se fiance alors avec sa nièce Flore, âgée de 16 ans. Une petite révolution s'opère en lui. La vue de ma fiancée, écrira-t-il, éveillait en moi je ne sais quel sentiment de dignité humaine. Je commençais à croire à l'immortalité de l'âme. Bien plus, je me mis instinctivement à prier Dieu. Sa pensée élevait mon cœur vers un Dieu que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais invoqué. Flore étant trop jeune encore pour se marier, on éloigne le jeune homme quelque temps de Strasbourg. Il part pour l'Italie. À Rome, il rencontre Théodore de Bussière, grand ami de son propre frère, converti lui aussi au catholicisme après avoir abandonné le protestantisme. Le père de ce dernier essaie de le gagner au catholicisme. Dans une sorte de jeu avec lui, Alphonse relève avec ironie un défi que celui-ci lui pose. Porter sur lui une médaille miraculeuse et réciter matin et soir le Memorare, cette prière brève que saint Bernard adressait à la Vierge Marie. Alphonse se disait « Après tout, si elle ne me fait pas de bien, du moins ne me fera-t-elle pas de mal ?» Et chaque jour, Alphonse prie « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre secours ou demandé votre suffrage ait été abandonné. Plein d'une pareille confiance, je viens, ô Vierge des Vierges, me jeter entre vos bras, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne dédaignez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. » À son propre étonnement, les paroles du Memorare s'emparent de son esprit pour ne plus le lâcher, comme ces airs de musique qui vous poursuivent et vous impatientent et qu'on fredonne malgré soi, quelque effort qu'on fasse, avouera-t-il plus tard. Puis, un beau jour, Alphonse est toujours à Rome, le 20 janvier 1842, Théodore de Bussière lui propose de l'accompagner à l'église Saint-André dell'Efrate, où il doit s'acquitter d'un bref service de sacristie. Et voilà ce qui arriva. Je laisse la parole à Alphonse. J'étais depuis un instant dans l'église, lorsque tout d'un coup, je me suis senti saisi d'un trouble inexprimable. J'ai levé les yeux, tout l'édifice avait disparu à mes regards. Une seule chapelle avait pour ainsi dire concentré la lumière, et au milieu de ce rayonnement parut, debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie, telle qu'elle est sur ma médaille. Elle m'a fait signe de la main de m'agenouiller. Une force irrésistible m'a poussé vers elle. Je saisis la médaille que j'avais laissée sur ma poitrine. Je baisai avec effusion l'image de la Vierge rayonnante de grâce. Oh, c'était bien elle. Je ne savais où j'étais. Je ne savais si j'étais Alphonse ou un autre. J'éprouvais un si total changement que je me croyais un autre moi-même. Je cherchais à me retrouver et je ne me retrouvais pas. La joie la plus ardente éclata au fond de mon âme. Je ne pus parler. Je ne voulus rien révéler. Je sentais en moi quelque chose de solennel et de sacré. Le bandeau tomba de mes yeux, non pas un seul bandeau, mais toute la multitude de bandeaux qui m'avaient enveloppé. Ils disparurent successivement et rapidement, comme la neige et la boue et la glace sous l'action d'un brûlant soleil. Le 31 janvier 1842, Marie-Alphonse Ratisbonne est baptisée, fait sa première communion et reçoit la confirmation. Ordonné prêtre en 1848, il s'installe en Palestine et consacre dès lors sa vie au catéchuménat des convertis d'origine juive, au sein de la congrégation de Notre-Dame de Sion, fondée par son frère Théodore. Et voilà, chers amis, cette magnifique histoire qui nous montre la puissance de la médaille miraculeuse.